RMC After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.
After Galaxy saison 2, merci d'être avec nous. Alors si c'est pas déjà le cas et c'est pas bien, merci de nous suivre votre appli, abonnez-vous pour pas manquer les prochains épisodes. Et puis manquez pas de lâcher vos likes, vos coms également et puis toutes vos remarques. Cet épisode est en mode vintage. Peut-être avez-vous vu même le film Netflix El Caso Figo sur le très controversé transfert de Luis Figo du Barça vers le Real Madrid. C'était en 2000. Eh bien, l'After Galaxy vous fait découvrir, redécouvrir peut-être, d'autres transferts épiques, polémiques, historiques. On replonge à la fin des années 80, saison 1989-90 précisément, le mur de Berlin est tombé et la vie est rythmée au son de Madonna qui cartonne avec ce tube, Vogue, peut-être vous en souvenez. Madonna qui, après avoir simulé une masturbation lors d'une tournée, la cible d'une tentative d'arrestation de la part de la police canadienne et voit ses dates annulées en Italie par le Vatican. Et c'est justement en Italie que nous allons avec le tout aussi stimulant Johan Crochet. Salut Johan.
Salut Nico, bonjour à toutes et à tous.
Eh, ça c'est de l'introduction.
Magnifique.
C'est magnifique, non? Alors c'est pas pour parler de Madonna que t'es là, hein, cela dit Johan.
On peut si vous voulez, mais c'est pas trop le but normalement.
Alors t'as quoi à dire sur Madonna du coup? Parce que tu me tends la perche, mais...
Pas grand chose finalement, je pense qu'on est mieux sur le foot.
Non, si tu es là, c'est pour Monsieur Roberto Baggio. Roberto Baggio, l'homme, l'histoire d'un gamin qui est né en février 67 en Vénétie. Hein. C'est pour ça que t'es là aujourd'hui.
Bien sûr. Elle est bonne.
Roberto Baggio qui a initié sa carrière de joueur pro dans la cité voisine de Vicenza. Tiens, archive de 1984. Roby a 17 ans et il fait déjà parler de lui à la question « Quel joueur admires-tu le plus ?» Voilà sa réponse.
Zico.
Et Platini?
Molto bravo. Sa fare tanti gol, però ammiro di più Zico.
Et son audience, on l'aura compris, Johan, c'est pas Platini, la star de la Juve à l'époque, hein, malgré l'insistance d'ailleurs du journaliste, mais c'est le Brésilien Zico. C'est assez curieux, non?
Bah, curieux, oui et non. Non, parce qu'en fait, s'il faut se rappeler un élément de contexte, c'est qu'au début des années 80, les deux meilleurs joueurs de la planète sont sans doute Michel Platini et Zico. Et quand il fait cette interview-là, tu l'as dit, en 84, Zico est arrivé depuis un an en Italie à Udine. Où il devient évidemment le leader de l'Udinese, le meilleur joueur de l'Udinese, l'un des meilleurs joueurs du championnat italien évidemment. Il termine d'ailleurs deuxième meilleur buteur derrière un certain Michel Platini. Donc pour Baggio qui dit qu'il regardait des matchs du Flamengo de Zico plus jeune, il a sans doute vu la finale de Coupe Intercontinentale en 81. Ah bah, voir arriver son idole en plus en Italie et le voir ultra performant en Italie, ça a sans doute aussi renforcé cette admiration qui n'était plus simplement derrière la télé, mais qui était un petit peu proche, un peu plus proche de lui en Italie.
Alors on le disait, hein, Baggio qui va faire ses gammes à Vicenza, son club formateur, qui, cela dit, va très vite devenir trop petit, hein, pour lui finalement.
Bah oui, c'est un élément plurifactoriel. Déjà, Vicenza, à l'échelle du football italien, c'est pas un immense club. On est sur la saison 84-85 et Vicenza, c'est en Serie C, donc la troisième division italienne. Donc on est encore très loin du haut niveau, même si à cette époque-là, le football italien est au sommet de l'Europe. Et quand lui il réalise une saison extraordinaire, c'est très simple. Ok, il a réussi à aider Vicenza à monter en Serie B, mais la Serie B, c'est encore trop faible pour un talent de ce type-là. Donc tous les grands clubs de Serie A veulent le recruter. C'est assez clair rapidement que Vicenza pourra pas garder un tel talent. C'est l'histoire de plein de bons clubs italiens qui finalement à l'échelon intérieur ne peuvent pas lutter face à des clubs de plus grande renommée avec des plus grosses possibilités financières, avec un programme sportif beaucoup plus intéressant aussi pour les joueurs. Donc c'est logique de le voir signer à la Fiorentina. Il y signe même d'ailleurs avant la fin de la saison 84-85. Et finalement cette décision-là, alors c'est toujours un peu délicat de l'affirmer comme ça, mais c'est presque une bénédiction pour lui parce que quelques heures après avoir signé ce fameux contrat avec la Fiorentina, il se blesse très gravement au genou. Alors c'est vers la fin du championnat, c'est la 29e journée de Serie A, de Serie C. À l'époque, il n'y a que 34 journées, donc on est vraiment sur la toute fin, c'est début mai. Et Vicenza accueille Rimini. Alors, pour la petite anecdote, Rimini entraîné par un certain, le sais-tu mon cher Nicolas?
Non, alors là c'est Nicolas.
Qui était entraîné Rimini? Arrigo Sacchi.
Ah oui,
exactement.
C'est vrai qu'il avait débuté là-bas, effectivement.
Ouais. Exactement, ouais, ouais. Et sur ce match-là, il se blesse gravement au genou. Et quand je dis bénédiction, c'est peut-être parce qu'on se dit, sans ce contrat-là, Est-ce qu'un autre grand club italien serait venu pousser à la porte de Vicenza avec une somme aussi importante, avec un joueur qui était indisponible pour, on savait pas à l'époque, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, on savait pas exactement combien de temps il ne pourrait pas jouer dans son nouveau club. Donc là, il avait au moins la sécurité d'avoir un beau contrat après sa guérison. Et juste pour préciser sur son opération, on sait que la médecine française est à la pointe depuis des années, et déjà à l'époque, et il s'était fait opérer en France. Moi, un chiffre qui m'a énormément surpris, et on en a parlé d'ailleurs, Nico, dans la préparation
Les points de suture, le nombre de points de suture.
220 points de suture sur une jambe, je ne savais même pas que c'était possible en fait.
Alors moi, ce que j'avais découvert en revanche il y a déjà quelques temps, je sais que c'est à ce moment-là qu'il va découvrir le bouddhisme également aussi pendant cette blessure.
Ouais, exactement. C'est une période qui est difficile parce que c'est un jeune qui est en train d'exploser et du jour au lendemain, vous lui enlevez la passion, un peu de fame parce qu'il commence à être très connu et à être très suivi. Et même quand il jouait avec l'équipe réserve, il était très suivi, etc. Donc, c'est un peu un monde qui s'écroule pour lui et il y a une remise en question personnelle, il y a un peu de déprime, entre guillemets, et surtout beaucoup de temps pour s'intéresser, pour réfléchir, etc. Et c'est à cette époque-là, effectivement, qu'il s'intéresse au bouddhisme. Et c'est une religion qui va le suivre tout au long de sa vie à partir de ce moment-là.
Il va attendre, du coup, avant de jouer son premier match avec la Viola.
Il faudra quand même rappeler que il est touché au ligament et au ménisque, donc c'est
double peine.
Une très grave blessure. Il revient au mois de janvier 86. Donc sur la saison 85-86 où il commence à entrer en jeu en Coupe d'Italie, même pas en Serie A, on n'ose pas le mettre sur une compétition encore plus compétitive, mais il commence à jouer quelques bouts de match en Coupe d'Italie. Il fait 5 apparitions, il joue d'abord en 8e de finale, après il joue un petit peu en demi-finale. On sent clairement que c'est une reprise en douceur et la prudence pouvait être tout à fait comprise à l'époque vu la très grave blessure qu'il venait d'avoir.
Et à Florence, l'ascension de Baggio va se poursuivre. En 1988, il célèbre sa première cape avec la Nationale et quelques mois plus tard, en avril 89, il marque pour la première fois avec sa sélection lors d'un amical face à l'Uruguay.
Fra gli undici comunque andava vista la novità Baggio. Il ragazzo non ha giocato secondo quelle che sono le sue potenzialità, ma ha trovato comunque il modo di mettersi in evidenza con un gol che solo i campioni di razza possono realizzare. E non solo il gol. Baggio si è mosso su una vasta zona di campo, ha toccato molto spesso palla di prima, che è caratteristica dei più bravi, e ha detto, a nostro avviso, che è su di lui che bisogna puntare per il futuro.
Le gamin n'a pas pu montrer toutes ses qualités, mais il a marqué un but de champion et pas que le but, dit le journaliste qui présage, c'est sur lui qu'il faut miser pour l'avenir. Alors Johan, c'est au cours de cet été 89 d'ailleurs que commencent à surgir les premières rumeurs de la possibilité d'aller vers la Juve pour Roberto Baggio.
Ouais, il y a d'abord la Juve. Alors, il n'y a pas que la Juve, mais il y a essentiellement la Juve. En fait, c'est simple, c'est que cette équipe de Turin est orpheline de Michel Platini depuis 2 ans. Et on sait qu'à la Juve, les équipes qui marchent sont des équipes qui sont tirées vers le haut par une individualité très forte. Il n'y avait pas que Michel Platini dans l'équipe au milieu des années 80 qui a tout gagné, mais quand même, il était ultra important. Et donc, la Juve se cherche un nouveau maître à jouer, en fait, une sorte de, comme Michel Platini, entre le numéro 10 et le second attaquant, capable de marquer beaucoup de buts, capable de débloquer des situations, capable de tirer tout le monde vers le haut. Et donc, ils avaient réussi à individualiser une recherche très précise sur Roberto Baggio. Alors, la Juve, en plus, est dans une période où ils n'ont pas de résultats, ils veulent lancer un nouveau cycle victorieux. On verra que ce ne sera pas si simple que ça, mais pour autant, malgré cette volonté-là et des débuts d'échanges, le transfert ne se fait pas l'été 89. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une affaire qui va être en filigrane de toute la saison 89-90. La rumeur qui refait surface à intervalles réguliers, elle prend en plus d'autant plus d'épaisseur que, élément de contexte important, la Fiorentina sur le plan financier n'est pas au mieux. Il y a des personnes qui s'intéressent pour racheter le club aux propriétaires du moment. Les propriétaires du moment se disent on peut sans doute faire un record de transfert avec Roberto Baggio, donc ça peut être intéressant pour nous économiquement. Donc tout ce contexte là fait que cette rumeur Baggio à la Juve et de l'intérêt de la Juve va suivre toute la saison 89-90.
Et alors, pour bien comprendre le contexte de ce transfert à venir de Roberto Baggio de la Fiorentina à la Juve, il faut savoir qu'il y a une vraie rivalité entre ces deux clubs.
E questo istante fischia la fine, Mattei, 0-0 tra Fiorentina e Cagliari, a te la linea.
Lo scudetto è stato vinto dalla Juventus, quindi nessun spareggio, scudetto subito alla formazione bianconera, un'altra stella sul petto dei giocatori juventini che conquistano così il loro 20° titolo.
Multiplex radio de la dernière journée de la Serie A, saison 80-82. Alors le titre se joue entre la Juve et la Fiorentina au cours de cette dernière journée. Et alors Johan, les événements de cette ultime journée justement vont tendre les rapports entre ces deux clubs.
Ouais, il y avait déjà une petite rivalité naissante, mais c'était pas immense, ça avait rien à voir avec d'autres rivalités en Italie. Mais c'est vrai que cette saison 80-82, c'est le début de... Je sais même pas si on doit l'appeler encore rivalité à ce moment-là, parce qu'on est quasiment dans la haine féroce des Florentins pour la Juve. Alors tu l'as dit, on l'a entendu dans le son, avant la dernière journée de championnat, les deux clubs sont en tête du classement, et à l'époque, ça se départage pas à la différence de but général ou à la différence de but particulière. Si deux clubs arrivent en tête, il y a ce qu'on appelle un spareggio, qui est un match d'appui, où en gros, bah c'est la finale. Voilà, les deux qui sont en tête... doivent se départager sur un seul match. Sauf que ça n'arrivera pas, puisque lors de cette 30e et dernière journée de Serie A 80-82, la Fiorentina va à Cagliari, qui en plus doit, alors pas forcément gagner, mais au moins prendre des points pour tenter de se sauver. Ils sont à la lutte avec Milan et avec Bologne, pour ne pas descendre. Et la Juve, ils ont un déplacement plus simple à Catanzaro, qui est bien placé, qui est 7-8e, mais qui a vraiment plus rien à jouer. Ils peuvent absolument plus rien espérer. Donc on se dit, bon, est-ce que ils vont vraiment être à fond sur ce match-là? Et puis, vous savez, en Italie, on sortait déjà d'une très grande crise du Totonero avec des matchs truqués, où c'était très compliqué, où il y avait toujours beaucoup de suspicions sur les rencontres de fin d'année, là où doivent se décider les trophées, les places importantes du championnat, éviter la relégation, etc. Donc, il y avait beaucoup d'interrogations et une vraie excitation avant cette dernière journée. Et pour le résumer de la façon la plus simple possible, lors du match de la Fiorentina, qui se termine par un 0-0, qui est une mauvaise opération pour la Fiorentina, la Viola marque un but par Graziani, qui est refusé pour une faute d'un de ses coéquipiers sur le gardien de Cagliari. J'ai revu les images. Alors c'est avec les images de l'époque, il n'y a pas autant de caméras. On n'a pas tous les angles, on a le sentiment que le coéquipier de Graziani met un peu le bras sur le gardien, est-ce que ça suffit pour siffler faute ou pas? Toujours est-il que c'est sifflé et que le but est refusé. Du côté du match de la Juve, il y a un pénalty qui est accordé à la Juve dans le dernier quart d'heure pour une main sur un tir dans la surface, et qui est tout à fait logique, hein. On voit clairement, il y a une frappe, le joueur écarte le bras pour sauver le ballon qui allait entrer dans le but, main, pénalty sans problème. Mais finalement, ce qui fera le plus parler, c'est même pas le but refusé à la Fiorentina, c'est pas ce penalty-là, c'est le coup de coude de Brio, qui était défenseur de la Juve, dans le visage d'un attaquant de Catanzaro en première mi-temps. Ça avait lieu dans la surface, où là, les images sont assez nettes, même si, encore une fois, on parlait pas de HD, de UHD, etc. à l'époque, de 4K et tout ce qui s'ensuit. Et l'arbitre décide de pas siffler penalty. Et quand les Florentins découvrent ça dans les images de la Domenica Sportiva, qui est l'émission phare de la télévision italienne, c'est, en fait, ça n'a même pas de comparaison en France. Alors, on aurait tendance à dire téléfoot pour la longévité, mais c'est bien plus que ça. Tout le monde est en furie du côté de Florence, parce qu'ils estiment que ça a faussé le match. Et puis vous savez, en Italie, dès qu'il y a un problème d'arbitrage, et ça date pas de maintenant, même si maintenant il y a encore plus de canaux pour distribuer les pensées, etc. Moi, je me souviens qu'à l'époque, il y avait un célèbre réalisateur italien, pardon, supporter de la Fiorentina, qui avait dit ouais, j'ai vu le président de la Juve manger des cacahuètes en tribune, ça avait l'air d'un mafieux, c'est signe que le match a été acheté. Ouais. Ça enflamme à peu près tout le monde. Et malgré tout, rien n'y fera. La Juve est sacrée championne et la Fiorentina enrage clairement. Et c'est vraiment le début d'une... Ouais, c'est même plus la rivalité à ce moment-là, c'est le début de la haine qui se poursuit encore aujourd'hui.
Alors si on vous explique ça, c'est pour vous poser un peu le contexte dans lequel va se passer ce transfert de Baggio vers la Fiorentina à la Juve. Alors cela dit, on évoquait tout à l'heure un intérêt naissant de la Juve en 89. Il va quand même rester une saison encore à Florence, hein, Roberto Baggio, une saison d'ailleurs qui va être compliquée pour le club. Hein.
Ouais, c'est une vraie saison galère pour la Fiorentina. En plus, c'est bizarre parce que c'est une saison un peu à deux visages. C'est en grande difficulté en Serie A où cette équipe-là lutte pour ne pas descendre. Mais à la fois, en Coupe de l'UEFA, c'est une équipe qui montre des vertus qu'elle ne montre pas en championnat, où elle passe les tours jusqu'à se retrouver en finale, on va y revenir tout à l'heure, mais d'ailleurs en éliminant deux clubs français, au passage, Sochaux et la JO Serre. De son côté, Baggio, lui, continue de briller parce qu'il est au-dessus, tu sens que clairement jouer le milieu de tableau ou même la relégation à la Fiorentina, c'est presque un gâchis par rapport à son talent. Alors, il termine deuxième meilleur buteur de Serie A derrière l'ami Marco Van Basten, ce qui est quand même à l'époque... Quand vous regardez le trio des meilleurs buteurs de cette époque-là, c'est Van Basten, Baggio, Maradona.
Ouais, c'est bon, pas dégueu. Ouais.
On a fait pire. Et lui, il affiche clairement un niveau de jeu très important, une vraie maturité, parce qu'il est encore jeune. Et tous les gros clubs italiens, on va y retrouver évidemment la Juve, s'intéressent à lui. Et donc... dans cette saison-là, où en plus tout va, enfin quasiment tout va mal, puisqu'ils vont quand même en finale de la Coupe de l'UEFA, mais pour la Fiorentina, il y a déjà ce qu'on connaît aujourd'hui finalement, le folklore autour des transferts de joueurs. C'est-à-dire que dès janvier 80.
Ouais, mais là, ce qui est fou, c'est que ça prend une dimension telle que ça va jusqu'à la Fédé italienne qui le convoque et tout. Enfin, raconte-nous ça, mais c'est complètement fou ce qui se passe.
Peut-être parce qu'il y avait une régulation qui était plus importante à l'époque et qu'à l'époque, on. Par exemple, cette sorte de fédération, pour la raconter, les rumeurs sont de plus en plus présentes au moment de la saison 89-90. Et à la fédération, on se dit, attendez, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une tentative de déstabilisation de Baggio ou de la Fiorentina? Voilà, parce que c'est pas possible qu'on en parle autant et qu'à chaque fois que Baggio prend la parole, il dit « moi, je veux rester à Florence ». Donc, il décide à la fédération de convoquer Roberto Baggio via une cellule spécialisée de la fédération et de l'interroger en lui disant « mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est vrai qu'il y a déjà un accord avec la Juve comme des rumeurs le laissaient présager, etc. ?» Il lui dit « non, moi j'ai pas rencontré les dirigeants de la Juve. D'ailleurs, j'ai pas rencontré ceux du Milan non plus parce qu'il y avait des rumeurs sur Milan aussi à l'époque. Moi, je veux rester à Florence et donc, moi, il n'y a pas de problème. Ça me déstabilise pas. Moi, je veux rester à Florence. » Donc la fédération clôt une espèce d'enquête comme ça qu'ils avaient essayé d'ouvrir pour voir un petit peu cette tentative de déstabilisation éventuelle. Sauf que quelques semaines plus tard, les dirigeants des clubs passent un petit peu à l'action. Ils sont interrogés. On sait comment ça se passe. Et du côté de la Juve, on a Gianni Agnelli qui explique que Baggio, c'est un joueur de la Juve à 51%. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En clair, alors il dit aussi le transfert ne dépend pas que de la Juve. En gros, ça veut dire qu'il explique que la balle est dans le camp de Baggio, que la Juve veut Baggio et que les 49% qui manquent, c'est Baggio. Que finalement, la Juve aura aucun problème à se mettre d'accord avec la Fiorentina et que tout dépend du joueur. Du côté de Florence, on a Flavio Pontello, qui est le propriétaire de la Fiorentina, qui explique à peu près au même moment dans la saison 89-90 que Baggio peut rester à vie à la Fiorentina s'il le souhaite. Mais là, on arrive aussi à la schizophrénie de certains dirigeants en Italie. C'est que quelques semaines plus tard, avant le match à Brême en Coupe de l'UEFA, donc ça, c'est mi-avril, c'était la demi-finale contre le Werder Brême, j'ai retrouvé une déclaration de lui qui était reportée dans La Repubblica, un des grands journaux italiens. Je vais vous citer ce qu'avait dit le propriétaire de la Fiorentina. Donc, je le cite. « Baggio a une importante valeur financière et je crois que ses requêtes salariales sont exorbitantes. On fera de notre mieux pour le contenter. » Mais je dois penser à l'équipe et pas au seul symbole. Si vendre Baggio en valait la peine, je n'hésiterais pas un seul instant. Et oui, dans ce cas, Agnelli serait le premier au courant. Donc c'est quand même assez clair du côté de la Fiorentina que on ouvre la porte à un transfert de Baggio, même si lui, très sincèrement et très clairement, on y reviendra plus tard aussi, il continue, même des années après, à la fin de sa carrière, etc., à dire que le transfert s'est fait sans son accord, parce qu'à l'époque ça pouvait marcher comme ça, et que lui voulait à tout prix rester à Florence.
Et alors, hasard de fou, c'est dans ce contexte tendu et flou que la Fiorentina et la Juve vont s'affronter en finale de Coupe de l'UEFA, car si la Viola peine en championnat, elle brille en C3, battue 3-1 à l'aller, et la Viola ne fera pas mieux qu'un 0-0 au retour, match en Eurovision diffusé par la RAI.
Si avvia a conquistare, ecco il fischio finale, anche Pasquale Bruno che aveva seguito la partita ai bordi del campo, forse con maggior apprensione di tutti, entra in campo e va a festeggiare. Molta gente sta entrando in campo, anche se era stato chiesto al pubblico di non effettuare nessun tipo di invasione pacifica o altro che fosse, perché ci sarà la cerimonia. Ora vorrei sentire da Salvatore Biazzo se è in grado di avvicinare...
Et ça veut dire donc, Johan, que cette finale de C3 perdue par la Fiorentina face à la Juve, et rappelons-le, sera le dernier match de Baggio avec la Fiorentina avant d'aller à la Juve, justement.
Exactement, et en plus, cette finale qui va encore plus accentuer cette haine dont j'ai parlé tout à l'heure, elle arrive dans un contexte particulier parce que c'est une finale aller-retour à l'époque, en Coupe de l'UEFA. Donc l'aller était prévu à Turin et le retour était prévu à Florence. Sauf que le stade avait été suspendu à la suite d'un incident lors de la demi-finale contre le Werder Brême. En gros, pour vous la faire très courte, le gardien du Werder Brême avait enlevé une écharpe. Vous savez, ça se fait très souvent, on met une écharpe...
sur les buts.
Voilà, sur les buts, derrière les filets. Et par provocation, le gardien du Werder avait décroché l'écharpe et il y a un supporter qui était rentré et qui voulait en découdre avec le gardien allemand. Le stade avait été suspendu et donc le match retour avait lieu à Avellino. Et Avellino, pour vous donner un peu, alors le contexte numéro un, la Juve est le club le plus avec le plus de supporters en Italie. Contexte numéro 2, c'est pas à Turin qu'il y a le plus de supporters de la Juve. Et contexte numéro 3, Avellino, c'est un des bastions des supporters de la Juve. Du côté de Florence, quand on a vu que le stade de son soi-disant match à domicile était à Avellino, c'était la double peine. C'était quasiment un deuxième match à l'extérieur parce que ça se déroulait dans une région où il y a énormément de fans de la Juve. Donc sur le plan du résultat pur, il n'y a pas trop de surprise que la Juve parvienne à battre la Fiorentina 3-1 à l'aller, match nul 0-0 au retour, donc la Juve remporte la Coupe de l'UEFA, c'est pas vraiment une surprise. Mais
à l'issue de ce match, il n'y a qu'une chose qui intéresse les journalistes. Hein. Ils courent après Roberto Baggio pour lui demander est-ce que tu y vas ou tu y vas pas à la Juve.
Et qu'est-ce que dit Roberto Baggio?
Il dit qu'il va rester, non?
Eh ben oui, comme à chaque fois qu'il prend la parole. Sauf que ce qui est dramatique pour les tifosi de la Fiorentina, c'est que deux jours après, le transfert est annoncé. Et que on s'aperçoit que finalement, il y avait sans doute déjà un accord avant la finale entre la Fiorentina et la Juve et que Baggio a joué son dernier match de la Fiorentina sans savoir que deux jours après, il allait rejoindre la Juve. Je rappelle quand même qu'à l'époque, c'est le record de transfert, 25 milliards de lire italiennes. Alors, les milliards de milliards de milliards de lire, on connaît un peu la monnaie italienne de l'époque. Hein. Je vais pas dire que ça fait 2 euros à l'heure actuelle, mais pas loin. Mais voilà, et c'est un... Rendez-vous compte que c'est une saison où, un, vous êtes pas loin de descendre en série B. Deux, vous vous qualifiez pour une finale de Coupe d'Europe, mais vous la perdez face à un ennemi de chez ennemi, un énorme rival maintenant. Trois, deux jours après cette finale-là, votre meilleur joueur, votre joueur symbole, qui n'a de cesse de clamer son envie de rester à la Fiorentina, est transféré chez ce même club ennemi. Donc c'est vraiment une saison catastrophique, une fin de saison catastrophique, et ça va déclencher d'ailleurs, à Florence, dans la ville, des manifestations très importantes, il y a des cortèges de supporters, et c'est pas que des ultras, hein, c'est vraiment des amoureux de la Fiorentina qui se retrouvent, qui organisent un cortège, il y a des milliers de supporters.
Il y a des émeutes même d'ailleurs. Hein,
il y a des émeutes, il y a des cortèges qui vont jusque devant la maison du président de la Fiorentina, et ça avait déjà eu lieu quelques mois auparavant. Il y a des émeutes, il y a des banderoles, il y a des carabinieri qui se voient bombardés de pavés, de bâtons, etc., etc. Il y a des blessés, il y a des dégâts matériels très importants. Et pour vous dire à quel point le peuple de la Fiorentina était vraiment touché par ce départ de Roberto Baggio chez l'ennemi la Juve.
Et au moment, hein, Roberto Baggio rejoint la Juve et la Coupe du Monde 90 est sur le point de débuter en Italie. La Nationale va tomber en demi contre l'Argentine au tir au but. Alors Baggio loupera pas le sien. Il sera même buteur, hein, dans le match de la troisième place face à l'Angleterre. Mais très vite, la Serie A va revenir au centre des attentions. Et alors, en avril 91, c'est le grand retour de Roberto Baggio à Florence, mais avec le maillot de l'ennemi de la Juve.
I fischi e gli insulti che per tutta la gara avevano preso di mira l'ex viola d'incanto spariscono. Dalla tribuna parte un applauso, poi due, tre. Baggio raccoglie una sciarpa viola lanciatagli dal parterre. L'applauso diventa un boato, una vera ovazione. Lui sorride e risponde con un saluto.
Voilà, des insultes à l'ovation, explique ce sujet italien de l'époque. Le retour de Baggio à Artemio Franchi, ça va être un ascenseur émotionnel, hein, pour lui, Johan.
Ouais, c'est très bizarre parce que c'est un match qui va débuter par des insultes, comme on pouvait très clairement s'y attendre, et qui va se finir sur une ovation, alors pas de tout le stade, parce que dans la curva Fiesole, la curva des supporters, c'était un peu plus mitigé évidemment, mais par beaucoup d'applaudissements dans les latérales, etc. Il est insulté évidemment quand il entre sur le terrain. D'ailleurs, c'est dingue. Il faut revoir les images. C'est le nombre de photographes, des trucs qu'on voyait déjà à l'époque, hein, pour des joueurs qui marquent des buts ou etc. Mais le nombre de photographes, de journalistes qui sont autour de Roberto Baggio quand il entre sur la pelouse, des choses qu'on ne voit absolument plus maintenant. Et puis aussi des sifflets à chaque fois qu'il touchait le ballon. Voilà, à chaque fois qu'il touche le ballon dans ce match-là, il y a une bordée de sifflets très très importante. Et puis va intervenir un moment un peu clé qui va déjà commencer un petit peu à renverser l'opinion. C'est Quand la Juve obtient un penalty, d'ailleurs c'est Roberto Baggio lui-même qui obtient ce penalty sur un tirage de maillot. Bah, Roberto Baggio, qui est le tireur de penalty de la Juve, qui était déjà à la Fiorentina, qui l'était un peu en sélection italienne avant de le devenir complètement, bah, il va refuser de tirer le penalty. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau pour la Fiorentina qui mène 1-0 à ce moment-là, c'est que le coéquipier de Baggio qui va le tirer va le rater. Et donc la Fiorentina va finir par s'imposer 1-0. Mais quand Baggio donc là, c'est le petit moment où l'opinion commence à basculer dans le stade. Parce qu'on se dit, ah ouais, bah, peut-être que Baggio, il a pas envie de marquer contre nous quand même. Peut-être que, voilà, il nous aime encore, qu'il sait que ça nous ferait du mal s'il marquait un penalty, etc. Et quand il est remplacé à la 74e minute, on voit clairement sur les images de la RAI des supporters balancer des objets en sa direction. Venant de la latérale, on voit vraiment plein de trucs arriver sur le bord de touche. Et Baggio, je sais pas si c'est par des mesures de sécurité ou quoi, il décide de se lever finalement du banc de touche, de récupérer un gros manteau et de filer au vestiaire. Alors pour raconter un peu aux auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas forcément l'Artemio Franchi de Florence, le tunnel ne débouche pas sur la pelouse au centre du terrain.
Ouais, comme aller à l'autre bout du stade. Hein.
Voilà, comme dans beaucoup de stades, faut longer toute la ligne de touche, passer derrière les buts et le tunnel se trouve entre le but et la curva Fiesole, donc le virage des ultra florentins. Et donc on le voit longer la ligne de touche et bizarrement c'est plus des objets qu'on lui envoie, c'est des écharpes de la Fiorentina. Et au moment où il marche comme ça le long de la ligne de touche, il va ramasser une écharpe, la prendre. Et là, tout le monde va se mettre à l'applaudir parce qu'on prend ça comme un geste d'amour quelque part, de se dire bah il prend notre écharpe, ça veut dire voilà encore une fois qu'il nous aime encore, etc. Donc il va prendre cette écharpe et là tous les sifflets qu'il y a eu pendant le match vont se transformer en applaudissements, en chants à son honneur, etc. Donc c'est un match qui a commencé de façon très très dure pour lui et qui se finit de façon quasiment nostalgique en se disant allez. Pour le reste du match, on met les ressentiments de côté liés à ce départ et on se souvient du bon vieux temps quand tu étais avec notre maillot.
Et alors tu l'as dit Johan, hein, ce match est aussi une histoire de penalty. La Fiorentina va remporter le match 1-0. Il y aura ce penalty que Baggio ne tirera pas et forcément à la fin de la rencontre, la question que tout le journaliste avait envie de poser à Gigi Maifredi, l'entraîneur de la Juve, était de savoir pourquoi Baggio n'avait pas tiré ce péno.
Questa è una cosa che abbiamo concordato io e lui in settimana. Lui aveva espresso questo desiderio anche perché poteva sicuramente essere strumentalizzato in un senso o nell'altro. Siccome io dietro ho uno che tira i rigori normalmente li fa, che è De Agostini, non mi è sembrata una richiesta scandalosa e l'ho accettata.
Voilà, Maifredi qui explique que c'était convenu d'avance entre lui et Baggio finalement.
C'est ça, et on peut le croire ou ne pas le croire. Du côté de Florence, on vous dira. Mais non, mais du côté de Florence, on vous dira que le joueur avait manifesté, du côté de la Juve et de l'entraîneur, on dira, voilà, il avait décidé de pas tirer pour pas que ça soit instrumentalisé d'une façon ou d'une autre, etc., etc. À Florence, on peut avoir la vision un petit peu plus romantique en disant qu'il avait pas spécialement envie de marquer contre son ancienne équipe pour son premier match de retour à Florence. Alors, est-ce qu'il faut regarder plutôt la réalité ou le romantisme, vaste question du football en Italie et du côté de Florence, on était plutôt romantique, je pense.
En tout cas, c'est à croire que la carrière de Baggio, c'est aussi une histoire de péno. Hein.
Alors, on va attaquer un moment que je n'aime pas raconter, mon cher Nico. Hein. tu parles sans doute d'un certain penalty en finale de Coupe du Monde.
Ouais, mais tu vois, alors moi, ça me rappelle le tout premier son de ce podcast quand il parle de Zico. Alors, c'était dans une interview à Placard où il avait expliqué qu'il était fan de Zico, qu'il regardait le Flamengo de l'époque. Et lui, il disait, bah, moi, finalement, j'ai pas la haine d'avoir perdu contre le Brésil parce que c'est le pays de mon idole, c'est le pays de Zico, tu vois. Donc,
effectivement, mais évidemment que ça reste une cicatrice, ce tir au but raté, même encore à la fin de sa carrière, hein, même longtemps après sa carrière, il en parle de ce penalty, mais c'est logique, ça a tellement marqué toute l'Italie, ça l'a marqué lui, parce que comme tu le disais, lui, il attendait ce match face au Brésil. Voilà, c'est lui qui adore le football sud-américain et brésilien, il avait envie de briller, etc. Donc lui en plus, qui était plutôt un bon tireur de penalty, il faut quand même le dire aussi, alors sauf en fin de carrière ou à Brescia, il en rate quand même 7 sur les deux dernières saisons avec Brescia, ce qui est quand même assez colossal. Mais d'ailleurs, même dans cette Coupe du Monde-là, hein, Nico, il marque un pénalty en prolongation en huitième de finale contre le Nigeria qui donne la victoire à l'Italie, d'ailleurs en le tirant du même côté que celui raté en finale. Et puis, Nico, en préparant ce podcast, je suis retombé sur un penalty et on va faire une petite dédicace très rapide à Gilbert Bribois, puisque Roberto Baggio, avec Milan, avait marqué un penalty à Strasbourg,
c'est
en
pas
Coupe
bon.
D'Europe, à Alexander Wenzel.
Et ouais, mon gars.
Voilà, quand il était à Milan. Donc voilà, c'était un vrai spécialiste des penaltys. Et très sincèrement, en Italie, au moment où Baggio s'élance, tout le monde se dit, allez, c'est bon, la séance va continuer parce que Baggio, on le connaît, quoi. Même s'il en a raté quelques-uns, de toute façon, personne n'a 100% de réussite sur les tirs de penalty, mais ou de tirs au but. Mais tout le monde était assez confiant et c'est peut-être ça le plus gros drame, c'est que ton meilleur joueur et ton joueur qui est le plus capable sur penalty est finalement celui qui rate le tir au but décisif.
Pour en revenir à cette saison, hein, 90-91, la première de Baggio à la Juve. Alors, championne d'Italie en titre, hein, la Juve, au moment où il arrive, la saison elle va être très très difficile, hein, pour la Juve, qui a beaucoup investi sur Baggio en plus. Hein.
Ouais, et pas seulement sur Baggio d'ailleurs, parce qu'il y a un très gros recrutement qui est fait. Il y a Baggio, on vient de l'expliquer. Il y a quand même le champion du monde Thomas Hessler, le milieu de terrain ouais, allemand, qui vient d'être sacré lors de la Coupe du Monde 90 en Italie. Il y a le Brésilien Julio César qu'on connaît puisqu'il était à Montpellier en France, très agressif. Et il y a aussi le jeune Paolo Di Canio, qui à cette époque-là n'est connu que pour son versant footballistique. Donc il y a,
on va dire ça comme ça. Je veux parler.
Non, je sais pas non plus. C'est une histoire de bras. lui, pas de bras, pas de chocolat, ça aurait été mieux d'ailleurs.
Ouais, ouais, ouais.
Mais voilà, le recrutement est quand même très très ambitieux et il faut le dire très clairement, c'est une faillite cette saison parce que déjà tu commences par une lourde défaite en Supercoupe d'Italie 5-1 à Naples. Donc, histoire de bien lancer la saison contre un rival. Et ensuite, la première partie de saison, c'est pas trop mal, mais c'est pas génial non plus. C'est très gros manque de régularité dans les résultats. Et la phase retour en Serie A, 4 victoires sur la phase retour.
Ah oui.
Défaite dans le derby de Turin, défaite contre Milan, l'Inter, la Fiorentina, la Lazio, le Genoa, la Sampdoria. Enfin, c'est une catastrophe, catastrophique saison. Il termine 7e, pire classement sur 30 ans. À ce moment-là, évidemment, et ils échouent en demi-finale de la Coupe des Coupes contre le Barça. Ça peut à la limite un peu plus se comprendre ou être moins synonyme d'échec que le reste de la saison. Mais c'est une énorme faillite parce que à l'époque, j'ai retrouvé le chiffre. Alors, il faudrait reprendre l'équivalence entre les monnaies à cette époque-là et c'est toujours un petit peu difficile. Mais ils investissent 70 milliards de lire la Juve sur le mercato et c'est vraiment colossal. Et finalement, c'est la première preuve que investir beaucoup d'argent sur des joueurs, ok, mais ça te donne pas forcément une saison aboutie à la fin en termes de prestations déjà et en termes de résultats aussi.
Pour en revenir à Baggio, il laissera quelle marque à la Juve et au final lui l'ancien Florentin.
C'est un peu difficile parce que déjà quand on parle de grands joueurs dans des grands clubs, c'est toujours difficile de faire un classement. Parce qu'en fait, il y a tellement de grands joueurs qui passent dans les grands clubs. C'est comme au Bayern, qui mettre au premier au Bayern, qui mettre au premier au Barça, qui mettre au premier au Real, qui mettre au premier à la Juve.
Non, mais il y a des données objectives qui le situent dans l'histoire de la Juve.
Voilà,
par
exactement.
Exemple.
Ouais. Les données objectives, c'est en gros la qualité des matchs joués dans l'ensemble, le talent. Voilà, quand on parle de Fuori Classe et en Italie, on pense immédiatement à des joueurs comme Baggio, comme Totti, comme Del Piero. Voilà, ça fait partie des joueurs qui étaient extraordinaires. Il y a évidemment le Ballon d'Or 93. Ça, c'est évident. Alors, la Juve a connu quand même beaucoup de Ballon d'Or. Platini, c'était quelques années auparavant. Mais ça compte aussi. Il y a le fait qu'il soit dans les meilleurs buteurs de l'histoire du club. Il y a le fait qu'il ait été aussi capitaine, qu'il ait remporté des trophées. Peut-être pas autant qu'espéré, mais il en a gagné quand même.
Il n'en a gagné que 3 en 5 ans, finalement, à la Juve.
Ce qui est pas énorme finalement, ouais. Vu l'ambition de la Juve à ce moment-là, le recrutement fait, la qualité de l'effectif, etc. Finalement, c'est pas tant que ça. Après, ils sont aussi tombés sur la dynastie Milan. Ouais. Voilà, à ce moment-là, t'as la vraie dynastie Milan qui s'impose clairement quoi. Et puis à l'époque, il y avait pas que Milan, il y avait aussi Naples, et puis il y avait pas que Naples, il y avait la Roma, puis il y avait pas que la Roma, il y avait l'Inter. Enfin, voilà, l'Italie années 80-90, on le sait, c'était le meilleur championnat du monde. Et puis il y a aussi le fait que c'est le club dans lequel il est resté le plus de temps et où il a joué le plus de matchs. Donc tout ça, c'est des données objectives. Maintenant, si on se dit quel est sa, si on devait faire un classement, sans faire un classement détaillé, mais dans quel range on le met en fait
dans quel
de
chapeau
classement. Ouais, voilà, on le mettrait pas dans le top 3, clairement, parce que grand club égale grand joueur. Platini, Del Piero, Buffon, Boni Perti, Chirea, probablement Sivori, qu'est-ce que tu fais de Bettega, qu'est-ce que tu fais d'Inozov, de Cabrini, de Gentile. Voilà, il y a beaucoup
y a
de
monde,
très grands joueurs. Dans un top 10 sans problème, je pense quand même qu'il serait dans un top 5, peut-être 4e, 5e place, pour toutes les données objectives que j'ai données. Mais voilà, par exemple, si on dit le plus grand numéro 10 de l'histoire de la Juve, ce ne sera pas Baggio, ce sera Platini. Mm.
Alors Baggio qui a été l'incarnation finalement de la rivalité Fiorentina-Juve, il reste quoi de cette rivalité aujourd'hui? Alors on en a beaucoup parlé hein, notamment dans l'after quand il y a eu le transfert de Vlahovic notamment.
Exactement, elle est encore très très intense. Elle est intense mais comme depuis toujours elle est quasiment unidirectionnelle en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que...
Une forme de complexe tu veux dire de la part des Florentins?
Je sais même pas si c'est un complexe, c'est juste de la pure haine en fait.
Maintenant, ouais,
c'est ouais, non, c'est ça, c'est pas juste ils sont plus forts que nous, c'est juste de la haine parce que alors c'est la haine qui est éprouvée par les supporters de la Fiorentina pour la Juve et les Juventini. D'ailleurs, quand tu interroges des supporters de la Juve, ils te disent le ressentiment, il est pas trop partagé parce que nous on se compare pas à la Fiorentina et c'est peut-être encore plus dur pour les supporters de la Fiorentina, mais pour les supporters de la Juve, la Fiorentina, ça n'a jamais été un vrai rival. C'est-à-dire que ça n'a pas été un rival sportif, pas économique. La Fiorentina n'est pas venue piquer des joueurs de la Juve, c'est plutôt l'inverse. Les transferts marquants, ils ont été dans un seul sens, de Florence à Turin. On parle évidemment aujourd'hui de Baggio, tu as parlé de Vlahovic. Entre-temps, il y a aussi Bernardeschi et Chiesa. Il faut même se rendre compte que sur les dernières saisons, Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic... Quand tu es supporter de la Fiorentina, c'est dur hein, de voir partir à chaque fois ton meilleur joueur en direction de la Juve pour le club que tu, voilà, on va le dire, que tu détestes en fait. Mm. Et pour vous donner une petite anecdote sur Bernardeschi, qui a été formé à la Fiorentina, quand les premières rumeurs sont apparues sur un intérêt de la Juve, il a évidemment été interrogé, notre ami Bernardeschi, et il avait dit à qui ça ne plairait pas de jouer à la Juve. Et évidemment, c'est très mal passé à Florence. Et en réponse, les tifosi de la Viola, ils avaient accroché une très grande banderole sur les grilles du stade avec pour message « À qui ça ne plairait pas de te cracher au visage ?»
Ah oui, sympa.
Donc voilà, c'est pour vous donner un peu le... Et puis ça, c'est encore le côté soft, le côté le plus sombre, le plus immonde, vraiment. C'est quand ça vire à la honte. C'est les inscriptions pour célébrer le Ezel. Par exemple, avoir des Fiorentina à Juve, tu as des tags, des banderoles ou des t-shirts qui font référence aux 39 morts de la catastrophe du Ezel, où tu as des supporters de la Fiorentina qui moquent le destin tragique de Chiréa, l'ancien grand défenseur de la Juve dont j'ai parlé dans les meilleurs joueurs de l'histoire, qui est mort sur un accident de la route brûlé dans sa voiture. Voilà, c'est ce genre de... C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut plus parler de rivalité, on peut parler simplement de haine. Alors évidemment, c'est... Toujours, il faut faire attention, c'est pas tous les supporters de la Fiorentina, c'est pas une masse franche et claire, mais il y a quand même beaucoup de supporters qui se laissent aller à des débordements moralement très discutables et qui, à chaque fois, en remettent une couche sur cette rivalité entre la Fiorentina et la Juve, qui aujourd'hui n'est plus sportive, parce que y a pas photo entre la Fiorentina et la Juve. C'est pour ça qu'elle n'est pas économique, elle n'est pas sur la qualité des joueurs, c'est simplement de la pure haine.
Eh ben merci beaucoup Johan Crochet, nous avoir éclairé sur ce transfert houleux qu'il y a eu en Italie il y a donc pas mal d'années maintenant de
Roberto
Baggio.
On peut quand même conseiller aux gens d'aller voir, parce qu'aujourd'hui on a des outils pour ça, d'aller voir des vidéos de ce que faisait Roberto Baggio à l'époque.
Ah bah oui.
Alors pas seulement à la Fiorentina, à la Juve, mais même quand il est passé à Bologne, à Brescia, quand il a fini sa carrière à Milan, à l'Inter. En sélection nationale italienne, évidemment. Regardez vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce joueur.
Mais merveille de joueur.
C'est un joueur extraordinaire, beau, élégant, comme on n'en fait plus beaucoup, parce que le jeu n'autorise plus trop ce genre de profil. Mais allez voir, franchement, vous ne perdrez jamais de temps à regarder des compilations de Roberto Baggio.
Merci beaucoup Johan Crochet, avec toi on ne perd jamais de temps non plus. Merci Jérôme Thomas à la production, merci Sylvain Kemener à la réalisation. Et on termine avec un moment d'émotion. Le 16 mai 2004, Roberto Baggio dispute le dernier match de sa carrière. Il porte le maillot de Brescia, justement. Il affronte Milan, l'une de ses ex à San Siro. Et l'hommage est à son image.
Si tu es qui, una delle carriere più belle della storia del calcio italiano. Esce dal campo per l'ultima volta, forse il giocatore più amato della storia del calcio italiano. Sicuramente uno dei più forti di tutti i tempi.
RMC After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.